Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Du Yeti au calmar géant, le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie » est un essai de Benoît Grison consacré aux animaux dont l'existence a longtemps été jugée incertaine ou controversée. L'ouvrage ne traite pas la cryptozoologie comme un simple répertoire de monstres, mais comme un domaine frontière où se rencontrent zoologie, paléontologie, anthropologie, psychologie, ethnologie, mythologie et enquête sur les traces matérielles. À partir de cas célèbres comme le Yeti, le Bigfoot, le monstre du Loch Ness, le Kraken ou le calmar géant, il montre comment les récits, les témoignages et les représentations anciennes peuvent nourrir une réflexion sur la manière dont la science évalue l'étrange. Le livre vise ainsi à distinguer le plausible du légendaire, sans mépris pour les traditions ni indulgence pour le sensationnalisme. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la cryptozoologie comme discipline d'enquête à la frontière de plusieurs sciences. Le livre présente la cryptozoologie non comme une croyance marginale, mais comme une méthode d'examen des êtres vivants dont l'existence n'a pas encore été démontrée de façon irréfutable. Benoît Grison insiste sur la dimension interdisciplinaire de cette approche. Les indices recueillis ne sont pas lus uniquement par la zoologie, mais aussi par la paléontologie, l'anthropologie, la psychologie, l'ethnologie et la mythologie. Ce choix est important, car il évite de réduire les récits d'animaux mystérieux à de simples erreurs ou à des fictions. Au contraire, l'auteur montre que ces récits peuvent conserver des informations utiles sur les savoirs locaux, les peurs collectives, les descriptions anciennes et les limites de l'observation scientifique. Cette méthode donne au livre une posture rigoureuse. Il n'affirme pas que tout est vrai, mais il prend chaque dossier au sérieux. L'intérêt principal est de déplacer la question du sensationnel vers celle de l'enquête, en examinant comment on évalue une trace, un témoignage ou une tradition orale quand les preuves directes manquent. Deuxièmement, du calmar géant au coelacanthe, les cas où le mythe rejoint le réel. Un des apports les plus nets du livre est de montrer que certaines créatures autrefois perçues comme légendaires ont fini par recevoir une confirmation scientifique. Le calmar géant, longtemps associé au kraken, sert de cas exemplaire. Il illustre la façon dont un imaginaire marin peut précéder la connaissance zoologique. Le coelacanthe joue un rôle similaire, puisqu'il a été considéré comme disparu avant d'être redécouvert vivant. En mettant ces exemples en regard, Benoît Grison démontre que l'histoire des sciences est aussi celle de corrections successives, où des êtres réputés mythiques peuvent se révéler réels. Cette perspective ne valide pas toutes les créatures cryptozoologiques, mais elle rappelle qu'une absence de preuves à un moment donné ne constitue pas une preuve définitive d'inexistence. Le livre tire de ces cas une leçon méthodologique essentielle. Il faut distinguer les récits impossibles à vérifier des phénomènes simplement mal documentés. La cryptozoologie devient alors un observatoire des glissements entre légende, ignorance et découverte. Troisièmement, le Yeti, le Bigfoot et les hommes sauvages quand l'énigme touche à l'anthropologie. Le livre accorde une place centrale aux figures humanoïdes comme le Yeti, le Bigfoot ou les hommes sauvages, car elles se situent à la jonction de la zoologie et de l'anthropologie. Ces êtres ne sont pas seulement présentés comme des créatures possibles, mais comme des objets culturels qui cristallisent des représentations du sauvage, de l'éloignement géographique et de la part inconnue de l'humanité. Benoît Grison montre que les témoignages à leur sujet ne valent pas tous au même titre, mais qu'ils révèlent souvent des attentes collectives, voire un homme animalisé dans la montagne, la forêt ou les confins du monde dit autant sur l'observateur que sur l'objet observé. Le livre ne tranche pas de manière simpliste pour ou contre leur existence. Il met plutôt en évidence le rôle des récits autochtones, des traditions locales et des lectures savantes dans la construction de ces figures. Cette approche rend le sujet plus riche que le simple folklore, car elle interroge aussi les frontières symboliques entre l'homme, l'animal et l'archaïque dans l'imaginaire moderne. Quatrièmement, le monstre du Loch Ness et les serpents de mer, l'épreuve des preuves et des légendes. Les monstres lacustres et marins occupent une place importante dans l'ouvrage, notamment le monstre du Loch Ness, les serpents de mer et d'autres créatures aquatiques. Ces cas sont particulièrement révélateurs car ils cumulent la puissance des légendes, la fragilité des observations et la difficulté d'accès au milieu exploré. Grison montre que le monstre du Loch Ness est devenu un exemple classique de la façon dont une affaire peut survivre longtemps dans l'espace public, même lorsque la science finit par trancher. Le livre ne se contente pas de relater les controverses, il explique pourquoi ces récits persistent, en raison de l'ambiguïté des témoins, des conditions d'observation et du besoin humain de donner une forme à l'inconnu. En parallèle, les serpents de mer et autres monstres marins permettent de comprendre comment certaines images anciennes traversent les siècles et se recomposent à partir d'observations imparfaites. L'intérêt analytique du livre est de montrer que l'imagination ne remplace pas la preuve, mais qu'elle la précède souvent, en proposant des formes avant que l'enquête puisse les confirmer ou les infirmer. En dernier lieu, un essai documenté qui valorise les sources, les images et la prudence critique. Ce qui distingue le livre de nombreux ouvrages sur les créatures mystérieuses, c'est son refus du ton spectaculaire. Les retours de lecture et les présentations disponibles soulignent un ouvrage documenté, sérieux, illustré et attentif aux sources. Benoît Grison s'appuie sur des témoignages de savants, des documents rares et des indices historiques pour construire une lecture ordonnée du sujet. Cette méthode donne au livre une valeur double, il satisfait la curiosité du lecteur attiré par les animaux énigmatiques, tout en lui apprenant à examiner les récits avec prudence. L'intérêt ne réside donc pas seulement dans la liste des créatures évoquées, mais dans la manière de les traiter. L'auteur rappelle que la cryptozoologie peut éclairer la frontière entre croyance et connaissance, sans confondre ouverture d'esprit et crédulité. Le livre est ainsi utile à un lecteur qui cherche une synthèse accessible, mais aussi à celui qui veut comprendre comment naissent, se transmettent et se transforment les récits d'animaux extraordinaires. Sa force est d'offrir un panorama large sans sacrifier l'exigence documentaire. En conclusion, du Yeti au calmar géant, elle s'adresse surtout aux lecteurs intéressés par les sciences naturelles, l'histoire des idées, les légendes animales et les zones d'incertitude où l'enquête scientifique rencontre l'imaginaire collectif. Il conviendra à ceux qui veulent comprendre la cryptozoologie sans tomber ni dans la crédulité ni dans le sarcasme, ainsi qu'à un public curieux des récits de monstres marins, d'hominidés mystérieux et d'espèces longtemps jugées impossibles. Le principal bénéfice du livre est intellectuel, il apprend à distinguer un témoignage, une trace, une tradition et une preuve, tout en montrant comment une hypothèse peut être discutée avec méthode. Il offre aussi une vraie culture générale sur des cas célèbres comme le Yeti, le Bigfoot, le monstre du Loch Ness, le Kraken ou le Coelacanth. Ce qui le distingue de beaucoup d'ouvrages du même genre, c'est son équilibre entre rigueur documentaire et ouverture au merveilleux, sans fascination aveugle pour le spectaculaire. L'ensemble donne un essai solide, lisible et nuancé, plus attentif à la compréhension des phénomènes qu'à la simple accumulation d'énigmes. Si vous souhaitez soutenir Benoît Grison, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.